RCF.
Bonjour, nous accueillons aujourd'hui Jean-Pierre André, un ami fidèle de RCF et d'Agora Défense, dans le cadre de nos émissions consacrées à l'histoire militaire du Cher et du Berry. Mon cher Jean-Pierre, bonjour.
Bonjour Bernard.
Alors, février 1916, février 2016, il y a un siècle, débutait la bataille de Verdun, où vous, secrétaire général et historien du 95e régiment d'infanterie, vous allez nous conter le bouclier de la France. Avant, je voudrais simplement vous lire une lettre destinée à une maman, celle d'un caporal du 95e régiment d'infanterie, datée du 18 février 1916. Son nom, Louis Martina. Il était né un 7 août 1895. Ma chère maman, excuse-moi si je suis un peu en retard pour faire réponse à ta dernière lettre. Je te remercie aussi des gâteaux qu'il y avait. Voilà 2 jours que je suis exempt de service. J'ai eu une talure au talon et le major me l'a percée. Mais ça va mieux. Je vais commencer à remarcher demain. Hier, il y avait manœuvre pour toute la division et il ne faisait pas beau temps. Il faisait très froid et la neige tombait. Mercredi, j'ai reçu une lettre de ma sœur où elle me dit qu'elle avait été te voir dimanche. Hier après-midi, j'ai eu la visite du gendarme. Il venait voir si nous étions encore là. Je ne sais si nous allons encore y rester longtemps à présent que les manœuvres seront finies. Lundi soir, j'ai eu la visite de Salard et de Louis Thomas qui revenaient de permission. Il m'a dit que tout le monde allait bien là-bas. Ils n'ont toujours pas de nouvelles de Camille Taupin. Bien le bonjour à tout le monde de ma part. Ton fils qui t'embrasse de tout cœur, Louis Martina. Ah là, l'année 16, c'est Verdun, la bataille de la Somme. Mais pourquoi Verdun ?
L'état-major allemand avait la volonté de finir cette guerre et d'imposer à la France une épreuve de force. Et son choix s'est porté sur une attaque massive, brutale, sur la région de Verdun, et notamment sur la ville, afin de casser ce verrou qui bloquait la possibilité d'entrée des troupes allemandes en France. L'attaque allemande était dirigée, l'état-major était sous l'autorité de Ruprecht de Bavière, le fils de Guillaume. Et l'armée allemande avait pratiquement fondé toute sa stratégie sur la chute de ce verrou. Voilà pourquoi
Verdun avait été choisi.
Ah. C'était une position qui semblait tout à fait accessible.
Alors justement, où se trouve notre 95e régiment d'infanterie en ce début de février 1916, en manœuvre, comme l'écrit le caporal Louis Martina?
Oui, le 95e RI, comme toute la 16e division, est en manœuvre, en exercice, à Bellerin.
Ah oui.
Bellerin se trouve environ à 15 km à l'ouest de Saint-Mihiel. Il est mis en alerte le 20 février. On commence, avant l'attaque, à mettre les troupes en alerte. Et le 21 février, les choses se précisent, un ordre de départ est donné. Direction Verdun. Après 55 km de marche forcée en 36 heures, dans des conditions extrêmement difficiles, sous le froid, la neige, un ravitaillement qui suit très mal, je crois que les hommes, pendant ces 36 heures, n'ont eu droit qu'à une soupe, un bouillon d'oignons pour se réconforter. Le 95e RI arrive au nord de Douaumont.
D'accord.
Là, il n'y a plus de troupes françaises. Elles ont été écrasés par l'attaque brutale, violente, allemande. La porte est ouverte aux troupes allemandes. Il faut la fermer, absolument. Et le 95e s'arc-boute.
Alors, justement, quelle a été la mission du 95e régiment d'infanterie en séjour du 24 au 27 février? Et pourquoi est-ce que le 95e régiment d'infanterie devient, entre guillemets, ce qu'on appelle le bouclier de la France?
Sa mission était de fermer cette porte à la poussée allemande. Sinon, si le 95e RI, enfin la 16e division, mais en particulier le 95e RI, avait craqué, c'était la porte ouverte aux troupes allemandes et la situation de la guerre aurait été complètement bouleversée. C'est en cela que le 95e RI a gagné son titre de bouclier de la France. Il a bloqué l'avancée de l'armée allemande. Alors, ça n'a pas été très simple. Hein. Les hommes sont arrivés sur un terrain qui était vierge de toute défense, de tout barbelé, de toute tranchée. Et pendant 2 jours, il a subi un bombardement d'artillerie lourde absolument épouvantable. Ils ont été matraqués sans bouger une semelle, stoïques sous les obus, sous les bombardements, dans le froid, la neige, sans ravitaillement. C'était vraiment une situation épouvantable, repoussant plusieurs attaques de l'infanterie allemande qui avançait derrière le feu roulant de l'artillerie, qui donc augmentait de violence encore à ce moment-là. Au bout de 3 nuits, 3 jours et 3 nuits de ce régime, le régiment reçoit l'ordre de se replier, une relève étant assurée. Mais le lieutenant-colonel de Bellonnet, commandant le régiment, pressentant qu'il allait y avoir incessamment une autre attaque, une nouvelle attaque allemande, a décidé de rester sur place et de résister autant que possible avec ses hommes. C'est effectivement, une demi-heure après, le tir d'artillerie s'est un petit peu allongé et les Allemands ont déferlé en masse. Et là, encore une fois, les soldats, nos soldats, se sont redressés, ont ajusté aux fusils aux quelques mitrailleuses qu'ils avaient. Les soldats allemands ont résisté et alors les ont repoussés et la relève a pu se faire.
C'est quelle date, c'est à peu près?
Ça, c'était le 25.
25 février.
Oui, le 25 février.
Le 25 février.
Vers 16h30 environ, la dernière attaque allemande.
Dernière attaque allemande. Alors, pourquoi est-ce que je vous demande, Jean-Pierre, la date? Parce que vous verrez dans la conclusion de l'émission, elle a son importance. Ce qui montre bien la férocité, l'ardeur de cette bataille. Est-ce qu'on a une idée des pertes?
Oui.
C'est terrible, ça.
Oui, j'allais en parler. Quand le régiment est relevé, on compte 800 hommes. Alors, ça ne veut pas dire forcément 800 morts, mais 800 hommes de moins sur les effectifs. Tués, blessés, prisonniers, disparus. Les disparus pouvant être eux-mêmes tués, blessés ou réellement disparus. Suzanne... enterré, vivant, enfin bon, toutes sortes de situations puissent se produire. Il faut remarquer que, aussi terrible que soit ce bilan, il est moins cruel que celui qu'a enregistré le régiment lors de la bataille de Sarrebourg en août 14.
En août 14, où là, je me souviens, vous nous l'aviez raconté, c'était terrible, c'était un véritable massacre.
On compte en août 14 entre 1000 et 1100 victimes dans le régiment.
Alors, justement, donc le régiment est relevé le 25 février. Après cette terrible hécatombe où le 95e régiment d'infanterie a montré une fois de plus son efficacité, hein, malgré les pertes, malgré les souffrances, je voudrais vous poser une question. Que devient le 95e régiment d'infanterie? Est-ce qu'il participe à la fameuse et aussi terrible bataille de la Somme, dont on parle peu, mais qui a été aussi terrible en ce qui concerne les pertes humaines? C'est une horreur totale.
Lorsque le régiment est relevé, le 25 février, il va d'abord se réorganiser. Il n'a plus que des effectifs pour constituer 2 bataillons. La valeur d'un bataillon a été anéantie dans cette bataille. Donc il se reconstitue, il recomplète ses effectifs, et un peu d'exercice, puis il est réinjecté, si je peux dire, dans la bataille de Verdun. Et là, il va connaître les secteurs de Tavannes, des Éparges, dans des conditions épouvantables, encore une fois, de vie, où la vie des hommes était effroyable, dans la boue, dans la Tavannes, dans l'atmosphère putride du tunnel, où les hommes sont restés parfois plus de 8-10 jours dans le noir. C'est affreux. Donc, le 95e RI, pour revenir à la question, oui, ne participera pas à la bataille de la Somme.
Jean-Pierre, j'aimerais que vous me reprécisiez un peu Tavannes. Moi, le souvenir que j'ai de Tavannes, entre guillemets, c'est le journal L'Illustration. Et cette photo où on voit ce tunnel, où on aperçoit quelques soldats, bien sûr un petit peu pas grimés, mais la censure a fait qu'on ne voit pas trop de morts. Qu'est-ce que Tavannes ?
Alors Tavannes, c'est un tunnel ferroviaire qui se trouve à proximité justement du fort de Tavannes et qui servait d'abri et de poste de commandement, d'abri pour un, deux ou plusieurs régiments. Et de poste de commandement, il y avait au moins deux généraux qui avaient installé leur poste de commandement dans Tavannes. Il y avait aussi une partie hôpital, enfin, il y avait énormément de troupes à l'abri dans ce tunnel. Mais cet abri n'était pas un abri très confortable, c'est le moins qu'on puisse en dire. Il y régnait une atmosphère absolument putride, il n'y avait pas de sanitaire. Imaginez 4-5 000 hommes dans ce tunnel sans sanitaire. Au bout de 3 semaines, ce que ça peut donner. Il faisait une odeur putride, une atmosphère humide qui pénétrait à travers les vêtements. Le noir, le grondement des bombardements extérieurs, mais qui arrivaient d'une manière sourde, tout à fait jour et nuit, en permanence, totalement déprimante. Et au bout d'une semaine et demie, les hommes sortaient pour aller se battre. Ils étaient comme des, si je peux m'exprimer ainsi, comme des chouettes prises dans des phares de voiture. Ils étaient éblouis, aveuglés, ils savaient plus trop, ils en étaient. Oui. C'était une vie terrible, terrible.
Oui. Alors justement, c'est encore un détail de cette bataille, des suites de la bataille de Verdun. Merci Jean-Pierre pour cette histoire de notre 95e régiment d'infanterie dans cette année 1916. Et notre caporal Louis Martina, qu'est-il devenu ? Il a été porté disparu le 25 février 1916 à Douaumont. Il avait 21 ans. Sa maman a gardé jusqu'à la fin de sa vie, au-dessus de sa tête de lit, un crucifix et encadré la médaille militaire ainsi que la croix de guerre de son fils, décernée à titre posthume. C'était mon arrière-grand-mère. Merci de nous rester fidèles et à très bientôt pour une nouvelle émission consacrée à l'histoire militaire du Cher et du Berry avec Agora Défense. Et merci encore, mon cher Jean-Pierre, pour tous ces récits. Merci.